Les yeux au ciel. Les yeux au ciel avec Anne-Françoise Marie pour découvrir les merveilles des étoiles.
Aujourd'hui dans Les yeux au ciel, j'aimerais vous raconter l'histoire d'un très grand astronome allemand des 16 et 17e siècles qui est bien connu par les physiciens pour ses lois qui définissent les mouvements elliptiques des planètes. Aujourd'hui, nous allons parler de Johannes Kepler. Kepler naît au sein d'une famille de religion protestante luthérienne. Ils sont installés dans la ville de Weil, qui est une ville libre. Dans cette ville, les Kepler ont joui d'une certaine reconnaissance sociale puisque son grand-père en a été le bourgmestre. Mais après avoir été porté au nu pour avoir combattu sous les ordres de Charles Quint, ce grand-père a sombré dans la pauvreté. Toute la famille s'entasse alors sous le même toit, dans la maison des grands-parents. Kepler est né prématurément, à 7 mois. Il est de nature chétive. Il souffrira toute sa vie d'une santé fragile. À l'âge de 3 ans, il contracte la variole, ce qui, entre autres séquelles, affaiblit sévèrement sa vue. La famille Kepler est peu ordinaire et son ambiance n'est pas des plus saines. Son père, Heinrich, est mercenaire dans l'armée du duc de Württemberg. Il est toujours en campagne, rarement à son domicile. Sa mère, Katharina, est analphabète, dure et tracassière. Kepler la qualifiera lui-même de petite, maigre, sinistre et querelleuse. Katharina avait été élevée par une tante qui a fini sur le bûcher pour sorcellerie. Kepler a 3 cadets, sa sœur Margaret, Christopher, qui lui fut toujours antipathique, et Heinrich. La mère de Kepler préfère nettement ses autres enfants, car Johannes est malingre, souvent malade, il est myope, et il souffre de polyopie, c'est-à-dire il voit double. De 1574 à 1576, Kepler vit avec son petit frère Heinrich, qui est épileptique, chez ses grands-parents maternels, parce que son père est parti en campagne en Flandre et que sa mère est partie à sa recherche. Le grand-père, Sébald Kepler, l'oblige à travailler, le bat et le persécute. Au retour de ses parents, Kepler déménage à Leonberg et commence à suivre des cours d'école latine. Ses parents lui font découvrir l'astronomie. Ainsi, en 1577, sa mère l'emmène en haut d'une colline pour observer le passage d'une comète. De son côté, son père lui montre l'éclipse du 31 janvier 1580 et comment cette dernière est devenue toute rouge. Kepler étudiera plus tard ce phénomène et l'expliquera dans l'un de ses ouvrages sur l'optique. La famille de Johannes Kepler décide qu'il sera ecclésiastique, ce qui n'est pas vraiment pour lui déplaire. D'une part parce que sa force physique est insuffisante pour les travaux agricoles, et de l'autre parce qu'il entrevoit sans doute l'occasion de s'éloigner de sa turbulente famille. Il est profondément croyant et il le restera toute sa vie. Ses études de pasteur s'enchaînent sans heurts. Il est d'abord au petit séminaire protestant d'Adelberg, puis au séminaire supérieur de Maulbronn, où il obtient son diplôme de fin d'études. En 1589, il entre à l'université de Tübingen, au séminaire évangélique. Là, il étudie d'abord l'éthique, la dialectique, la rhétorique, le grec, l'hébreu, l'astronomie et la physique, puis pendant 3 ans, la théologie et les sciences humaines. Il y poursuit ses études après l'obtention d'une maîtrise en 1591. Il suit en même temps les cours d'astronomie de Michael Melstein, qui, bien qu'obligé d'enseigner le système géocentrique de Ptolémée, est un fervent admirateur du nouveau système héliocentrique de Copernic. À son contact, Kepler devient lui-même un copernicien enthousiaste. Alors que Kepler projette de devenir pasteur luthérien, l'école évangélique protestante de Grasse demande un professeur de mathématiques. Il abandonne ses études en théologie pour prendre ce poste, et c'est ainsi que Kepler devient mathématicien provincial. La première année, il n'a que quelques étudiants, la seconde, il n'en a aucun. Il est donc chargé d'enseigner d'autres matières, comme la rhétorique, l'histoire ou l'éthique. Outre ses cours, il se doit, en tant que mathématicien provincial, de tirer des cartes astrales, d'élaborer des almanachs, c'est-à-dire ce qu'on appelle nous maintenant des horoscopes, et de réaliser des prédictions astrologiques. À l'époque, la distinction entre l'astronomie et l'astrologie n'est pas encore clairement établie. On croit généralement que le mouvement des astres est gouverné par les lois divines. En 1596, il publie son premier ouvrage, Mysterium Cosmographicum. C'est le fruit de sa lecture du Timée de Platon et de ses premières recherches sur la structure de l'univers. Il voit dans les lois qui régissent les différents mouvements des planètes un message divin adressé à l'homme. Dans ce livre, où il affirme sa position copernicienne, il se donne comme objectif de répondre à 3 questions portant sur le nombre de planètes, leur distance au Soleil et leur vitesse. Dans ce livre, il développe une théorie des polyèdres réguliers permettant de construire un modèle de l'univers. Kepler remarqua en effet que l'on pouvait intercaler entre les trajectoires des 6 planètes connues à l'époque, de Mercure à Saturne, les 5 solides de Platon, ces derniers étant des polyèdres réguliers. Ils étaient parmi les solides ceux qui s'approchaient le plus de la perfection divine de la sphère. Leur utilisation dans l'architecture de l'univers s'accordait très bien avec la grandeur de la création divine. Le nombre de ces solides impliquait le nombre de planètes. Il y a 5 solides, 5 intervalles, donc 6 planètes, ce qui correspond à ce qu'on pouvait observer à l'époque. Mais ces polyèdres expliquaient également par leur disposition les proportions des orbites, les distances relatives entre les planètes et le Soleil, chaque solide étant inscrit dans l'orbite d'une planète et circonscrit à l'orbite de la planète immédiatement inférieure. L'emboîtement est constitué comme ça. D'abord, à l'extérieur, le cube, entre les orbites de Saturne et Jupiter. Le tétraèdre, entre celui de Jupiter et Mars. Le dodécaèdre, entre Mars et la Terre. L'isocaèdre, englobant l'orbite de Vénus. Et lui-même circonscrit à l'octaèdre, qui entourait l'orbite de Mars. Pour prendre en compte la variabilité des distances des planètes au Soleil, due pour Kepler comme pour Copernic à l'excentricité et aux épicycles de chacune d'entre elles, l'astronome donne à chaque orbe une épaisseur, correspondant à la différence entre la distance maximale et la distance minimale de la planète au Soleil. Il est à noter que l'épaisseur des orbites amène Kepler à transformer de façon décisive le système copernicien en un système vraiment héliocentrique. Copernic prenait comme référence des mouvements planétaires le centre du grand orbe, le centre de l'orbe terrestre, et non pas le Soleil, qui est un tout petit peu à l'écart du fait que l'orbite terrestre n'est pas tout à fait circulaire. Pour affecter à l'orbe de la Terre, comme à toutes les autres, une épaisseur, Kepler déplace la référence des mouvements planétaires dans le Soleil. Alors il reste la question des vitesses, la troisième question que Kepler traite dans ce livre. Pour les expliquer, il attribue au Soleil une âme, ou une force motrice, qui induit le mouvement des planètes. Il compare celui-ci avec la lumière, qui elle aussi provient du Soleil. Il tente de déduire de cette analogie une loi mathématique, liant la période de révolution des planètes à leur distance au Soleil. Mais ses conceptions erronées sur la propagation de la lumière, alors qu'il corrigera par la suite, sur la dynamique, c'est-à-dire la relation entre les forces et les mouvements qui seront établies un peu plus tard par Galilée et Newton, ainsi que des erreurs de déduction mathématique sur des principes qu'il a établis, l'amènent à une loi erronée. Il lui faudra 20 ans pour la rectifier. La théorie des solides emboîtés, si elle nous paraît un petit peu fantaisiste aujourd'hui, a permis à Kepler d'entrer en contact avec ses contemporains, Galilée, Tycho Brahe, c'est le mathématicien impérial de la cour de Prague. Le premier, Galilée, lui fait part de son enthousiasme pour le soutien des idées coperniciennes qu'il partage également. Le second, tout aussi admiratif, l'invita à travailler à ses côtés. Mais les apports de son livre Mysterium Cosmographicum ne se limitent pas à la riche collaboration qu'il a permis avec l'astronome danois. Ce livre a surtout été apprécié en son temps, car il constituait le premier plaidoyer convaincant pour la théorie copernicienne, ne se contentant pas, comme Rheticus l'avait fait, de présenter les avantages mathématiques de ce système héliocentrique. Kepler, en effet, cherche et croit avoir trouvé les causes physiques et mathématiques du nombre, de la disposition et du mouvement des planètes. Cette recherche de causes physiques, que Kepler poursuivra tout au long de sa vie, constitue l'acte fondateur et l'invention d'une nouvelle science, l'astrophysique. En 1600, les troubles liés à la contre-réforme obligent Kepler à fuir à Prague. Il a été invité par l'astronome danois Tycho Brahe pour devenir son assistant. Alors les relations entre Tycho Brahe et Kepler ne vont pas être au beau fixe. Tycho ne croyant pas tout à fait à l'héliocentrisme de Nicolas Copernic, mais soutenant une autre théorie, dans laquelle la Terre est le centre et les planètes tournent autour du Soleil. Kepler voit en Tycho Brahe un homme plein de richesses, mais qui a surtout des compétences qu'il n'a pas. Tycho Brahe réalise les mesures les plus précises qui n'avaient jamais été réalisées jusque-là. Mais il ne les exploite pas vraiment. Alors que Kepler, lui, ne voit pas bien, il est atteint de myopie, il voit double. Il s'appuie donc sur les observations excellentes de Tycho Brahe pour élaborer ses théories. Tycho Brahe lui demande de calculer l'orbite précise de Mars, dont les positions suivant ses observations résistent à toute tentative de modélisation et s'écartent notablement, c'est-à-dire de plusieurs degrés quand même, de celles prévues dans les tables. Kepler pense accomplir sa tâche en quelques semaines, mais il lui faudra près de 6 ans pour achever son travail. C'est pendant ce travail sur l'orbite de Mars que Kepler découvre les lois qui portent son nom, les lois de Kepler, qui vont décrire les mouvements des planètes autour du Soleil. La première loi, c'est la loi des orbites. Elle dit que les planètes décrivent des orbites elliptiques autour du Soleil, et que le Soleil occupe l'un des deux foyers de l'ellipse. Contrairement à la croyance populaire de l'époque, selon laquelle les orbites des planètes étaient circulaires, Kepler a découvert qu'elles sont en fait elliptiques. Une ellipse, c'est donc une forme géométrique, c'est comme un cercle un peu aplati. Il a donc deux points appelés les foyers. Dans le cas des planètes, c'est le Soleil qui se trouve à l'un des foyers de l'ellipse. La deuxième loi de Kepler est appelée la loi des aires. Elle dit qu'une ligne reliant une planète au Soleil balaie des aires égales en des temps égaux. Cette loi signifie tout simplement que la vitesse à laquelle une planète se déplace varie sur son orbite. Lorsqu'elle est plus proche du Soleil, sur la partie la plus aplatie de l'ellipse, on dit qu'elle est au périhélie, elle se déplace plus rapidement. Et lorsqu'elle est plus éloignée du Soleil, à l'aphélie, elle se déplace plus lentement. Ça garantit que l'air balayé par le segment de droite reliant la planète au Soleil est la même pour des périodes de temps égales. Venons-en à la troisième loi de Kepler, qui arrivera 9 ans après les deux premières. C'est la loi des périodes. Elle annonce que le carré de la période de révolution d'une planète, le temps qu'elle met pour faire son orbite complète, est proportionnel au cube de la longueur du demi-axe de son orbite. Alors cette loi dit tout simplement que la période orbitale d'une planète est reliée à la taille de son orbite. Plus une planète est éloignée du Soleil, plus elle mettra de temps à compléter son orbite. Cette relation mathématique permet de comprendre et de calculer les périodes orbitales des différentes planètes du système solaire. Alors ce travail est d'autant plus long que Kepler doit mener en parallèle une étude sur l'optique afin de mieux comprendre et de mieux interpréter ses observations. Il est encore trop conditionné par des anciennes croyances en astronomie. Il doute à plusieurs reprises de la nature circulaire de la trajectoire et pense alors à une ellipse tout en essayant de continuer à prouver le contraire et en ressortant des vieilles idées faisant appel à l'utilisation des épicycles, par exemple. Les 70 chapitres d'Astronomia Nova comprennent ainsi toutes les démarches scientifiques et toutes les erreurs de Kepler, qui lui permettent d'aboutir à ses deux premières lois, mais aussi à d'autres conclusions intéressantes, comme la nature responsable du mouvement des planètes. Une force quasi-magnétique, donc physique, et plus divine. Évidemment, ça vous fait penser à la loi de la gravitation universelle. Alors Kepler explique à propos de la pesanteur et de l'attraction terrestre que, et je cite, « deux corps voisins s'attireraient en raison directe de leur masse ». Même s'il n'a pas encore d'explication claire pour expliquer ces lois, il les constate. Et c'est Isaac Newton qui expliquera les lois de Kepler par la théorie de la gravitation universelle. Et ce sont bien les lois de Kepler qui ont non seulement aidé à décrire précisément le mouvement des planètes, mais également ouvert la voie à Newton pour formuler sa loi si importante de la gravitation universelle.